Salut à tous et bienvenue à l'épisode 19 de la confrérie. Je suis toujours entouré de mes fidèles larrons, en commençant par à ma gauche aujourd'hui.
Pourquoi lardons.
Mes fidèles lardons. Fidèles larrons. Akuma Sai.
Salut à tous.
Davrous.
You, hello, je suis depuis la France.
Yeah, c'est vrai. Et le petit Multa.
Bonjour.
Très bien, salut les copains, j'espère que vous allez très bien. On a réussi à être réguliers puisque nous avons fait un épisode en septembre. On va faire un épisode en octobre, même si c'est presque les derniers jours.
Incroyable.
Donc, je suis fier de nous. Et aujourd'hui, nous avons deux sujets. Je vais commencer par un sujet sur les platistes.
Ah.
Et le petit Davrous va nous parler des développeurs, si j'ai bien compris, David.
Ouais, des différents profils de développeurs, certains qui sont casse-couilles et d'autres qui sont incroyables.
Génial. Et on a des exemples un peu de tout en plus autour de nous.
C'est exactement, cool. Ouais.
Eh bien, très bien. Sans autre forme de procès, nous allons passer au sujet numéro 1. Ce magnifique jingle, je ne sais pas ce que tu as à mettre, c'est toujours ça que j'attends avec impatience. Moi, je voudrais vous parler d'un sujet qui me passionne. Ça fait un moment que ce sujet était prêt et je n'avais pas encore eu l'occasion de le sortir du four pour vous le servir. Et je suis super content aujourd'hui de pouvoir en parler. Ce sujet, c'est les platistes ou aussi appelés les plateux.
Mais alors, quid de alors, la quid. Question principale quand même.
Ou les débiles mentaux.
On n'a pas un sujet pipi-caca aujourd'hui pour la confrérie.
Ah, c'est
attends, mais t'en sais rien.
On ne sait pas. Peut-être
mais j'ai vu un truc probable. Hier, je me suis dit, il y a des fois, il y a quand même des messages subliminaux. Oui. J'en parle juste en 3 secondes, puisqu'on a du temps. J'ai vu qu'il y a des gars, ils se font bronzer l'anus.
Ouais.
Et ouais, ouais.
C'est quand même normal.
Parce que, voilà. Et ils disent qu'en 30 secondes, ils absorbent l'énergie du soleil d'une journée. Donc c'est pour donner un peu le thème avec les platistes.
Non, mais comment alors, ils arrivent à savoir comment ils se font juste bronzer
les mecs, ils savent. Non, mais, voilà.
Non, mais par contre,
ils
c'est vrai qu'ils
vont mettre un drap énorme avec,
avec l'environnement, quoi.
Déjà, mais j'avais vu, moi, des bronzerets. C'est un truc que tu te mets entre les fesses pour écarter le cul, pour que justement le soleil atteigne la zone à bronzer.
Parce que moi, j'ai toujours une trace.
Comme ça, vous connaîtrez, c'est le butthole sunbathing.
Voilà.
Sunbathing, ok.
Et puis, je pense que c'est vraiment une partie du corps qui est faite pour
c'est pratique.
De... Ouais, c'est vraiment nickel.
Ouais, elle est exposée.
Mais ce n'est pas
bon,
notre
désolé,
sujet.
C'était intéressant, mais...
C'est bien.
Pourquoi tu viens toujours faire des sujets intéressants?
Est-ce que tu veux que je fasse un deuxième jingle juste pour toi, pour réinitialiser le truc?
Donc, aujourd'hui, notre sujet, c'est les platistes. Alors, les platistes, ce sont des gens que nous n'allons pas insulter directement, qui pensent que la Terre est plate, ou tout du moins, et parce que je voudrais être inclusif, ce sont des gens qui pensent que la Terre n'est pas ronde.
Pourquoi tu ne veux pas les insulter directement? Je ne comprends pas.
Parce que ça serait trop facile.
Ah ouais. Alors,
non, parce qu'il faut, non, il faut être ouvert quand même.
Alors, je vais essayer de prendre la parole pour eux, en fait, et défendre ce groupuscule de personnes qui, à mon avis, sont méconnues et mal aimées.
Il faut une ablation du cerveau pour ça, du coup, non?
Ou plateux sont des gens qui pensent que la Terre est plate, surplombée par un dôme, une sorte de cloche à fromage indestructible. C'est vraiment super important. Ok, donc vous imaginez une cloche à fromage, il y a, voilà. C'est plat et on est là.
Sur le dos de 4 éléphants.
Et ça pue le minster à l'intérieur.
Ben un peu, parce que ça sent leur enfermer, forcément. À l'intérieur de cette gigantesque, on va dire, boule de Noël, si vous préférez, ben il y a la Lune. Okay. Et il y a le soleil, mais alors le soleil il est beaucoup beaucoup moins grand que ce qu'on pense.
Il est tout petit, bah
il est tout petit, hein, on est d'accord. Okay.
Et il est plat ou pas le soleil, c'est ça le truc
Alors ça mon gars, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui pensent que c'est une boule et ceux qui pensent que c'est pas une boule.
Ah, mais... donc tout n'est pas plat.
Non, oh là là, mais il y a d'énormes quantités de courant chez les platistes, c'est un vrai...
Et est-ce qu'il y a courant de ceux qui pensent que leurs couilles sont plates hein, ou pas?
Non, je sais pas. À mon avis, comme ils peuvent les toucher...
Castors.
Non, ils pensent que... Enfin, je sais pas, moi,
ça la branche des castors, des platistes.
Donc, ils pensent que le Soleil, c'est une sphère ou pas, de quelques centaines de kilomètres de diamètre qui tournerait au-dessus de nos têtes. Donc, imaginez pas, elle ne tourne pas autour de la Terre qui est plate, elle fait un rond, d'accord, qui est parallèle avec le sol,
alors,
d'accord
okay. C'est pour ça que... Je peux te poser des questions
Ouais, alors je vais essayer de défendre autant que je peux, mais vas-y, lâche
alors,
les
il
questions.
Disparaît où, le Soleil, quand...
Ah, mais il disparaît pas. En fait, il est loin de toi. D'accord, c'est tellement c'est un grand rond, d'accord.
Quoi
et comme il est bas, tu reçois quasiment plus de rayons de soleil quand
il est caché par la montagne, si tu veux. Voilà.
Alors, il faut savoir que vous allez me dire si c'est plat, si on va au bord, qu'est-ce qui se passe
Tu tombes,
Hein c'est vrai.
Qu'est-ce qui se passe
Bordel de cul. Eh bien, en fait, on peut pas parce que il y a l'Antarctique qui est un gigantesque mur de glace. Et ceci n'est pas sponsorisé par Games of Thrones.
Ouais, c'est ça.
Il n'y a pas un mur au nord de glace.
Putain, mais les mecs, ils sont sérieux, quoi.
Alors, c'est pas qu'au nord, ça fait tout le tour.
Ah oui, ça fait le tour. Oui, puis il n'y a pas vraiment de nord, puisque c'est un rond. Enfin, si, on peut dire qu'il y a un nord, mais voilà, tout le tour.
De toute façon, le nord, ça veut rien dire, ça change tout en fonction de l'orientation dans laquelle tu es. Donc,
ouais, c'est ça, de là où tu regardes.
C'est ça, c'est vrai. Alors, il y a également un second groupe de personnes, parmi les plateux ou platistes, qui pensent que c'est pas un disque, c'est plutôt une pièce. Et donc, ils disent qu'elle est biplate.
Elle est biplate, ok.
Elle est plate des deux côtés. C'est-à-dire que si tu arrives au bord, tu peux passer dessous et c'est l'autre côté.
D'accord. Et c'est quoi de l'autre côté ?
C'est quelle force qui te fait, qui te colle les pieds ?
Bah, alors, je sais pas le détail technique de tout ça.
Allez, on attend la limite des réponses possibles.
Et en fait, il y a un troisième groupe qui considère que les deux autres groupes, c'est des gros connards.
D'accord.
En fait, c'est le groupe qui pense que la Terre est un donut. Et il y a une raison à tout ça. Vous imaginez qu'on est sur la surface d'un donut. C'est pour ça que quand vous regardez vers le ciel, c'est bleu. Parce que vous voyez l'océan qui est de l'autre côté.
Bah ouais. Oui.
Celle-là, elle est plus élaborée.
Celle-là, elle galère. Bah, parce qu'ils ont un gros problème avec le ciel.
De l'autre côté du donut. Pas celui qui est à l'intérieur.
Ouais, mais toute la surface n'est pas habitable. En fait, tu habites qu'au centre de l'anneau.
Ah.
Et du coup, à chaque fois que tu lèves
la tête... Ah, mais on est au centre de l'anneau.
Ah oui, c'est une route vélo, quoi.
Et oui, pas sur le côté. Et à chaque fois, l'Antarctique, c'est quand même les limites sur le côté. C'est facile à utiliser, ça. Tu vois, c'est la...
Mais pourtant, au centre de l'anneau, c'est vide.
Alors, non, mais sur le cœur de l'anneau, si tu veux. Le cœur de la meule, là, tu vois. Et du coup, l'idée, c'est que quand tu regardes au ciel, c'est bleu parce que...
Pourquoi je cherche un truc logique, de toute façon, dans ce machin
mais pourquoi tu vas faire un truc
logique? Je sais pas, c'est bizarre.
De toute façon, t'as tort, Seb, cherche pas.
Ouais.
Le truc, c'est qu'ils essayent de réconcilier une vision de leur monde avec la réalité. Okay. Alors, un peu d'histoire, quand même. Il faut quand même savoir que la Flat Earth Society a été officiellement fondée en 1956. Et devinez où, devinez où.
On est descendants.
Devinez où?
Aux États-Unis.
Aux États-Unis.
Non, non, encore plus con.
En France?
Ah non. En Angleterre.
Ah bah oui,
chez les consanguins forcément quoi.
Ouais.
Et donc un certain Samuel Shenton a été le fondateur, puis ça a été ensuite dirigé par évidemment un Américain parce qu'il pouvait pas rester dernier sur
le marketing quoi.
Charles K. Johnson, ok.
Tu veux dire que jamais vraiment jusqu'en 1956 l'humanité était pas encore perdue, c'est ça?
Ah bah, il y a eu des périodes dans l'histoire où effectivement on pensait que la Terre était pas ronde. Après, il y a eu plein de personnes qui ont quand même bien prouvé que la Terre était ronde.
Ouais, mais c'est à l'époque où les gens mangeaient des cailloux aussi, donc c'est pas
oui, c'est ça, tout à fait. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ils parlaient aux arbres. Mais là, depuis en 1956, ils fondent cette society et on peut considérer que c'est un peu le début du mouvement, on va dire en tant que tel. Le mouvement qui se place dans une société qui est majoritairement, et encore vous allez voir les chiffres après, convaincu que la Terre est ronde. Hein. Et donc il y a à peu près jusqu'à... L'organisation Flat Earth Society monte à peu près jusqu'à environ 3000 membres afin de tomber complètement dans l'oubli dans les années 80. Ok.
On peut y avoir leur peau, quoi.
Non mais mine de rien, sans Internet, 3000, c'est beaucoup quand même.
Oui, alors sans Internet, 3000, c'est beaucoup, mais c'est pas assez pour exister.
Ouais.
Par contre, Internet arrive. Ok. Les réseaux sociaux arrivent.
Et là, ça part en vrille.
Et là, c'est le drame, parce qu'en fait, la Flat Earth Society renaît de ses cendres dans les années 2000 et se développe bien sûr grâce aux réseaux sociaux et à Internet, d'accord. On compte, alors il y a plein de groupes sur Facebook, c'est un peu chaud de les... Il n'y a pas une sorte d'annuaire géant des connards, tu vois, qui sont répartis. Oh pardon, j'ai dit ça, je voulais dire que j'étais...
Tu étais censé les défendre, fais attention quand même.
Il n'y a pas plein de mecs qui s'abonnent pour rigoler.
Ah, exactement, parce que là, on compte à peu près 200 000 membres, mais il y a énormément de gens qui sont là pour venir essayer de convaincre ou de les ramener à la raison, tu vois. Des gens, un peu des sortes d'évangélistes qui se disent, merde, il faut que je...
Notamment, il y a la NASA, souvent la NASA, les mecs ils disent un truc et la NASA dit mais non. Parce qu'il y a ça, quoi.
Et donc, c'est 200 000 membres des groupes Facebook, mais c'est pas évident de savoir, de trier là-dedans qui, en fait, est membre ou pas et y croit au truc.
C'est quand même
énorme.
Alors,
moi, je vous recommande un excellent documentaire sur Netflix qui s'appelle Behind the Curve, qui est un reportage, en fait, et, sur le leader du mouvement, qui est
de Seattle. J'ai pas encore regardé, mais j'avais envie. Tu l'as vu ou pas?
Oui, je l'ai vu, bien sûr. Il s'appelle Mark Sargent. Il est de Seattle. Et ce petit bonhomme a quand même 60 000 followers sur YouTube.
C'est le mec qui a fait une fusée, là?
Alors non, c'est pas lui.
Ah, d'accord. Bon, c'est un autre reportage.
Donc, lui, il est considéré comme le leader parce que c'est lui qui organise un peu le truc. Il fait un peu de bise aussi avec. Ils sont forts, quand même. Parce qu'ils font du bise, ils te vendent des logos de Terre plate, etc. Il y a tout un commerce autour de ça. Et comme tout groupuscule, en fait, l'appartenance au groupe est super importante parce que tu as l'impression d'appartenir à quelque chose qui est plus grand que toi.
Ouais.
Et du coup, voilà. Donc, effectivement, le pins Terre plate, ça marche bien. Hein,
puisque c'est plate.
Il est vraiment donut, le pins donut aussi, ça dépend de ton sous-groupe. En fait.
Mais tu la mets où l'épingle?
Eh bien, elle est derrière. Elle est monde.
Dans ton cul, et ça fait un donut au chocolat.
Il y a quand même, deux, trois trucs relativement sympas. Dans le documentaire d'Ian Behind the Curve, leur problématique, si tu veux, c'est qu'ils veulent convaincre les autres qu'ils ont raison. Okay. Et ils vont donc essayer scientifiquement de convaincre les autres qu'ils ont raison.
Ouais, là, c'est dur, là.
Et du coup, il y a un excellent moment dans dans le documentaire sur Netflix où ils achètent un laser, d'accord ? Ils se mettent au niveau de l'eau et ils disent...
Et
ils
meurent.
Et plate,
ils meurent parce
que je vais tirer un laser tout droit. 500 mètres plus loin, je vais mettre un système de mesure qui va récupérer le point du laser. Ok, on est d'accord avec ça. Ouais. Et du coup, si le laser est à 200 mètres de haut, là où je suis, il va viser à 200 mètres de haut, en face, puisque la Terre est plate, d'accord ? Ouais. Alors que s'il y a une courbure de la Terre, eh bien, ça va viser beaucoup plus haut.
Ouais.
Vous êtes d'accord ?
Ouais.
Un peu plus haut.
Un peu.
Mais même beaucoup, si c'est, même c'est 2 cm plus haut, il y a une courbure.
Ouais. C'est
alors, premier test qu'ils font, le mec, il n'a pas pris le bon laser, donc le laser, au bout d'une certaine distance, il diffracte. Du coup, en face, tout est rouge. Okay. Et voilà. Et au final, ils achètent le bon laser et ça fait pas ce qu'ils espèrent. Donc, ils partent, et c'est très intéressant de le voir dans le reportage, dans une sorte d'obscurantisme de l'explication. Oui, non, parce qu'en fait, il y a eu une attraction bipolaire du système qui a détourné.
Il n'y a pas un peu une théorie de la conspiration autour de ça, en disant que tout le monde veut leur mentir.
C'est, ouais. C'est des lasers fabriqués par Stanley Kubrick, tant foire.
Mais c'est ça, c'est des lasers fabriqués par l'armée qui font semblant
qui contre la gravité, la courbure. Juste un autre point, ils veulent quand même organiser une croisière en Antarctique en 2020 pour aller voir.
D'accord.
Pour prouver
pour voir le mur de glace.
Ben oui, pour voir le mur de glace.
Alors, c'est super dangereux, il y a des méchants derrière, je crois, non ?
En plus.
Ah ben ça dépend. Oh là là, David, je parle même pas des gens qui pensent que de l'autre côté il y a des hommes lézards, etc. Là, je vous donne juste la version plus probable. Quoi.
Mais il y en a qui pensent que derrière il y a tous les gens riches qui habitent.
Exactement.
Qui ont le meilleur truc. Ouais, la majorité des gens ils pensent ça.
Ah, putain, ouais.
Par contre, David, c'est comme super intéressant qu'ils veulent utiliser une approche scientifique. Alors
oui, alors justement, je vais y revenir.
Sans contrôler les sciences finalement.
Alors, je veux dire, déjà, pourquoi est-ce qu'ils veulent avoir absolument raison? Parce qu'ils pensent. Alors pourquoi pensent-ils, excusez-moi, qu'ils ont raison ? Ils pensent qu'ils ont raison. Oui, j'ai eu du mal.
Rhétorique.
Ils ont raison parce que on voit pas la courbure. C'est vrai que là, comme ça, si je regarde dehors, je vois pas la courbure.
C'est dur.
C'est chaud pour eux. S'ils peuvent pas le voir, ça n'existe pas.
Ah, mais tu vois pas non plus l'oxygène, donc.
Ah, mais bonne remarque.
On voit pas. Tu sais que ma mère, ça a le problème. On voit pas le Wi-Fi. Du coup, ça n'existe pas quoi. Comment est-ce que tu peux avoir internet s'il y a pas de fil ? Mais tu vois, là, la courbure terrestre, c'est pareil, on la voit pas, elle n'existe pas. Ensuite, ils ont des problèmes avec certains faits. Il y a un exemple scientifique, le pic du Canigou. Okay.
Ouais.
On le voit depuis chez Mémé, qui habite à 200 km de là, et c'est un fait connu,
d'accord.
Alors qu'on ne devrait pas en fonction de la courbure.
Okay.
Et là, en fait, c'est le phénomène connu du mirage. Quand tu es dans le désert, le réchauffement de l'air par rapport au sol crée un effet miroir, et tu vois quelque chose qui est beaucoup plus près de toi alors qu'il est très loin.
Okay.
Eh bien, le pic du Canigou, et je vous mettrai le lien dans le billet qui accompagne ce podcast, c'est un phénomène physique connu, tu le vois, alors qu'il est vraiment pas visible normalement en fonction de la courbure de la Terre.
Ouais, donc là,
mais il est remonté par l'effet mirage. Ouais, alors là, les gars, ils sont... Oh putain quoi.
Ouais.
La Terre n'est pas ronde. Ensuite, si la Terre était ronde, et accrochez-vous les gars, parce que celui-là, il est quasi imparable, elle tourne sur... Soi-disant, elle tourne sur elle-même à 1600 km/h, ok ?
D'accord.
Comment ça se fait qu'on n'ait pas la tête qui tourne ?
Bah ouais.
Bam !
J'ai une question quand même, est-ce que c'est là qu'ils ont inventé la bouffe pour chien ou pas?
Ouais, je dis non, je vais pas
le
faire de blague.
J'arrive pas à foutre ma blague, du coup elle est moins drôle.
Bah ouais.
Donc si on tourne à 1600 km/h, admettons t'as pas la tête qui tourne, t'as pas mal à la tête, comment ça se fait que tu t'envoles pas, espèce de connard?
Que t'es pas projeté à l'extérieur.
Si tu prends une boule et que tu mets un petit truc dessus et que tu l'as fait tourner très vite, le petit truc dessus, il dégage. Allez, bam, c'est pas une boule. Hop là, réglé, rentrez chez vous. C'est réglé.
Okay.
La Terre est plate. Okay. Alors évidemment, il y a des gros problèmes pour eux, parce que la majorité des faits scientifiques, à savoir tout, va contre eux. Il n'y a pas un moment où ils ont raison, en fait. Ils font des mesures laser, le laser, il dit « Ah non, t'as tort. » Ah non, il est con ce laser, attends, prends-en un autre, tu vois. Donc c'est tout ça comme ça. Les photos de la Terre. Pourquoi est-ce qu'il y a des photos de la Terre ronde depuis qu'on arrive à aller dans l'espace?
C'est faux, ça.
C'est faux, c'est la NASA qui fait des manipulations. Et vous savez pourquoi la NASA elle fait des manipulations? Pour continuer à récupérer du cash, parce qu'elle est financée, la NASA.
Ah.
Et du coup, les gens qui sont à la NASA, ils disent « Oh putain, merde, on est dans l'espace, la Terre est ronde, elle est plate. C'est pas bon pour nous, ça.
Bah, »
non. Et non, parce que tout ça, du coup, bon, on va faire des photos.
Donc on n'est pas allé sur la Lune, tout ça.
Dans les démos scientifiques, ça me fait penser, j'ai vu une vidéo YouTube où il y a un mec qui expliquait pourquoi ça pouvait pas être rond, parce que tu pourrais pas avoir d'océan, il prend un melon, il met de l'eau dessus,
ça coule
autour, il prend une assiette, il met de l'eau dedans, il fait « t'as vu, là, ça marche ?»
Voilà, c'est réglé.
C'est quand même énorme.
La créativité, c'est comme le gars qui te dit que t'as pas mal à la tête parce que la Terre tourne vite, tu vois. Ensuite, il y a aussi une résistance au discours dominant, et ça rejoint un peu toutes les personnes qui aiment appartenir jusqu'au principe de secte à des sous-groupes. T'as l'impression d'appartenir à quelque chose, d'être un peu spécial, tu vois. Voilà, donc il y a ça aussi, évidemment. Il y a également la perte de la foi en la science. Et c'est intéressant, parce qu'ils ne croient pas en la science, mais ils vont tenter de te démontrer qu'ils ont raison, ouais, scientifiquement.
Ils essayent de communiquer avec des gens qui croient en la science. Donc, ouais, ils essayent
donc
de
ils se mettent à leur niveau, peut-être, ouais, effectivement.
Et du coup, et puis surtout, excuse-moi, mais est-ce qu'il y a des pathologies qui ont été identifiées? Parce qu'ils sont quand même malades. Soit ils sont complètement cons, c'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'éducation qui est triste, on va dire. Soit ils ont une vraie pathologie, c'est-à-dire que leur cerveau ne fonctionne pas bien. Est-ce que qu'il y a des explications à tout ça?
Soit c'est avant de répondre à cette question, David, je vais te donner le dernier cas, qui est le cas majeur. Dans la Bible, il y a écrit, à plusieurs moments, que la Terre est plate.
Ah.
Dans le principe du créationnisme, moins jusqu'au Moyen-Âge, la Terre est plate. À partir de là, vu que la Bible l'emporte sur tout le reste...
Ah oui.
Ouais, et ça, donc, c'est pas un phénomène physique, c'est une croyance aveugle en quelque chose.
Ce serait intéressant d'avoir un peu l'étude sociologique des membres pour ça.
Quand tu regardes le reportage sur Netflix, tu peux te faire une idée relativement
c'est chrétien,
rapide.
Un peu pur et dur.
Ouais, c'est vraiment. Le problème, c'est que Dieu a créé le monde selon le créationnisme et on est au centre de tout. Quand on regarde la science, elle te dit t'es une grosse merdasse qui n'a aucun intérêt sur un putain de caillou au bord d'une galaxie parmi des milliards de galaxies, peut-être
qui pète.
Parmi des milliards d'univers. Tu n'as aucun intérêt et tu n'es que le fruit du hasard. Et bien ça les révolte. Ça les révolte parce que ça va contre toutes leurs croyances. Ouais. Du coup, il faut tout cancel, en fait. Du coup, et pour tout cancel, t'en arrives au moment où tu dis mais la Terre est même pas plate, alors comment ça se fait, tout ça. Voilà, bref. Alors il y a quand même des grosses stars comme Shaquille O'Neal, qui est persuadé, alors après c'est pas un modèle d'intellectuel, non.
Sérieux.
Qui est persuadé, qui croit dur comme fer que la Terre est plate, et d'ailleurs quand il monte dans un avion, il fait des photos de la ligne d'horizon, voilà, et là il est content.
Il voit qu'elle est plate.
Mais justement dans un avion, on voit la courbure, donc c'est quoi leur explication à la courbure?
Non, mais t'es fou toi, mais Davros.
C'est un effet d'optique à cause de la fenêtre.
Davros, c'est encore la NASA, c'est conno, ils te mettent des hublots déformants.
Mais oui.
Mais c'est dingue de se laisser avoir
comme
ça.
Mais la
quoi.
NASA,
ils vraiment
toutes les vitres de tous les avions, c'est ça?
Ouais,
bah c'est oui, ça, bien sûr. C'est pour ça qu'ils ont plein d'argent.
Et comment, les pilotes d'avion, comment ils font avec les montgolfières alors? Les montgolfières, ils modifient les montgolfières aussi.
Non, tu montes pas assez haut pour voir la courbure avec les montgolfières. Tu la vois pas.
Ah, aussi, je pense.
Non. Et alors là, ils te mettent des photos depuis une montgolfière, justement. Il faut monter à plus de 1 km ou 2 pour commencer à la voir à l'œil nu. Et d'ailleurs, il y a un fou de 60 ans qui s'est construit une fusée dans le Nevada. Ouais. Il est monté dedans. Il est monté à 570 mètres de hauteur. La fusée a explosé. Il s'est ruiné la gueule. Il n'est pas mort.
Ah oui, mais c'est lui dont je voulais parler.
Alors lui, il est exceptionnel, quoi. Il dit, moi, j'y vais. Poussez-vous les culs, j'y vais. Donc, il se fait une fusée, etc. Bon, forcément, tu ne fais pas une fusée comme ça. Il est quand même monté à 0,5 km d'eau, ce qui est pas mal.
Ce qui est balèze.
Ah, il a explosé comme une grosse merde. Il s'est retrouvé par terre. Il n'a pas réessayé depuis.
Comment il n'est pas mort en tombant 500 mètres?
Je sais pas. Parce que ça a explosé, mais la fusée est retombée. Elle a déclenché
des coussins.
Non, pas des coussins, des parachutes. Donc, il s'en est bien sorti.
Ah oui, d'accord. Okay.
Il a juste eu mal au dos, le gars, quoi.
Pourtant, franchement, envoyer des fusées, ça demande une relativement bonne formation scientifique.
La technique qu'il a mis en place est relativement bourrine. Il a mis une sorte de gros pétard qui a balancé une purée folle et il a réussi, franchement.
C'est le principe de base de la fusée, non?
Ouais.
C'est un gros pétard qui balance.
Franchement, respect, il a réussi à monter quand même. Bon, voilà.
Ou alors, comme il est rempli de vide, peut-être quand il tombe dans le pilier,
il flotte, lui, tu vois.
C'est comme
je terminerai juste avec un sondage qui va vous faire plaisir. Ah, selon l'IFOP.
Oula.
Alors, et question, vous avez regardé les notes de l'émission
savoir.
Ou pas?
Je veux non. pas savoir. Okay. Non, je veux pas savoir.
Alors, selon l'IFOP, en 2018,
ça doit...
il y a un an de ça, en France,
ah, putain.
Donnez-moi le pourcentage de Français pensant que la Terre est plate.
Bah en même temps, il y a 25% de gens qui votent pour le FN.
Voilà.
Donc...
Je vais dire un quart.
Ouais. 25%?
Ouais.
Tout le monde? Alors c'est moins que ça quand même, les copains.
Tu nous as teasé là. Ouais.
C'est 12-13,
non? Mais pour moi, c'était 0. Non, c'est 9%.
Ah ouais,
c'est une personne sur 10. Donc là, on est 3. Avec Davrous, 4. Donc c'est pas assez, c'est con, on va dire. Mais si on était 10 dans la pièce, il y a un mec qui pense que la Terre est plate.
Non, enfin bon, j'imagine qu'il faut revenir sur les catégories sociales et l'éducation. Donc,
bien sûr.
J'ose espérer que les gens autour de nous, il n'y en a personne qui croit que la Terre est plate.
Mais sur 66 millions d'habitants, voilà, il y en a 10%.
Mais je pense qu'on serait étonné parce que il y a des fois, tu discutes de sujets, puis tu vois que ça coince.
Ouais,
ça se trouve, il y a des mecs qu'on côtoie.
Ça fait des millions quand même.
Ça fait des millions, effectivement. Ça fait 6 millions.
Donc ça veut dire que dans les 10 auditeurs qu'on a régulièrement chaque mois, il y en a un qui.
Là, il y en a un qui a arrêté d'être. Il s'est désabonné parce qu'on les a défoncés. On a défoncé les créationnistes et les platistes. Les mecs disaient, ouais. C'est bon, allez hop.
Ouais, ça va.
Ouais. Donc voilà les copains.
C'est intéressant quand même.
Ouais, c'est intéressant fou. Et sociologiquement, vraiment, je mettrai plusieurs liens. En fait, je vous mettrai des liens vers les groupes Facebook parce que certains sont ouverts et c'est juste intéressant de suivre les discussions parce que c'est presque une expérience anthropologique. Je vous invite vraiment à aller voir le reportage Behind the Curve parce que pour le coup, Behind the Curve, ils les suivent et ils ne jugent pas. Ils vous montrent juste et à vous de juger par vous-même. Alors, petit détail peut-être, mais qui vaut ou pas son. L'information, le chef, le leader là, donc Mark Sargent, vit chez sa mère. Voilà. Ah. Mais je juge pas encore une fois. Bah je donne des faits.
Voilà. Et il s'habille et avec les vêtements de sa mère. Cette...
et il porte des strings usagés sur la tête. Et je
il se fait bronzer l'anus aussi.
Ouais, c'est le même
qui a inventé le
mais ça, les gars, préparez-vous parce que je vous dis, parce que
c'est la nouvelle mode.
Je m'y connais. C'est la nouvelle mode, ça va venir. Et en France, ça va arriver à fond la caisse, quoi. Il y a tout. C'est toutes les stars qui commencent à parler de ça.
Oui. Toi, donc. Et c'est pas Georges Clooney qui se faisait tanner les boules aussi là ou
tirer les boules.
Il y avait une. Oui, parce qu'il avait, il faisait partie de la branche des castors, donc il avait les boules plates et c'était plus.
On lit définitivement pas les mêmes sites, ben. Vous cherchez toutes ces.
David, avant que tu conclues. Est-ce, oui. Rassure-moi, est-ce qu'il y a des pistes qui permettent de mieux comprendre ces gens-là et d'essayer d'inverser un peu ce phénomène ? Parce que il n'est pas réservé qu'aux platistes. Il y a les anti-vaccins.
Alors non, mais j'en ai plein d'autres pour d'autres sujets. Ce que je vais te répondre ici sur les platistes, c'est que fondamentalement, ça prend quand même racine dans une croyance théologique et qu'il est quasi impossible de les faire changer d'avis.
Ouais, de toute façon, la théologie, c'est le dogme. Donc, c'est un dogme. Que tu veux donner
c'est dogmatique,
des faits.
À chaque fois que la NASA pose des faits, du moment que la NASA les dit, ils refusent un bloc et ils vont te voir comme une sorte d'évangéliste quand tu vas essayer de les convaincre. Il n'y a jamais, en tout cas de tout ce que moi j'ai vu, toutes les discussions que j'ai pu suivre, et j'en ai regardé un paquet, de gens qui ont dit « Ah ouais, t'as raison, en fait. » Même quand eux font une expérience et quand eux-mêmes s'aperçoivent que ce qu'ils attendent de l'expérience n'est pas le résultat escompté,
c'est qu'il y a une autre
il y a autre chose. Il y a autre chose, ça va être le laser qui a merdé, c'est qu'à cet endroit-là, la Terre, elle a une courbure magnétosphérique différente.
Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont complètement foutus. Il n'y a rien à faire, quoi. C'est ça que tu dis.
Non, bah, c'est fini. C'est ouais, fini. Je pense, ouais. Il y a zéro moyen. Je pense que même si tu les amenais dans l'espace et que tu leur montrais, comme ils ont un casque, j'ai déjà vu des discussions là-dessus, eh bien le casque, le hublot du casque...
Il faudrait qu'eux-mêmes fassent la fusée pour
il
aller
faudrait
voir.
Qu'eux, ils fassent tout, la fusée, le casque...
Et limite, ils changeraient un gars, le gars qui le ferait serait peut-être modifié, et encore, il serait capable de s'inventer une histoire, mais les autres auraient tendance à ne pas le croire.
Le next step, c'est leur voyage en Antarctique. S'ils le font vraiment, on va voir ce qui va se passer. Je pense qu'il y en a la moitié qui vont crever parce que l'Antarctique, c'est quand même pas le Club Med, tu vois. Ouais. Mais admettons qu'ils y aillent jusqu'au bout, qu'ils vont jamais voir ce putain de mur. Ben, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Je sais pas. Peut-être qu'ils vont trouver une explication comme quoi ils ont été hypnotisés, parce que ça aussi, ça arrive. Parce qu'après, là, c'est le début du délire. Parce qu'il y a ceux qui vous disent qu'après le mur de l'Antarctique, il y a les lézardiens. Non, c'est pas les lézardiens, c'est les reptiliens, voilà, ouais, qui sont ceux qui, avec d'autres groupes de pensée, maîtrisent l'humanité,
monde,
ouais. Et qu'il y a que les gens riches qui vivent derrière, il y a un autre monde. Enfin, là, on part sur le délire absolu, qui est moins lié, si tu veux, à l'expérience biblique, donc j'ai pas traité ici, mais ils ne sont pas récupérables, je pense, David. Et encore une fois, peut-être qu'ils ont raison. Et on a tous tort. Peut-être que c'est eux qui ont raison.
Enfin,
et on va conclure là-dessus. Ouais. Ta-ta-ta-ta ! Allez, hop, on passe au second sujet. Davrous, je te laisse juste 2 secondes pour laisser le jingle pour Malta.
Radio Kawa. Est-ce que vous avez déjà mis le feu aux jeux vidéo ? Jay, Fox, Caféine, Alex le Serveur et Inks le font à chaque numéro des tauliers. Ils ne se fixent aucune limite pour célébrer leur amour du jeu vidéo, de son histoire et de son industrie. Pour le meilleur, comme souvent pour le pire, ils dépiautent des sujets d'actualité ou reviennent sur des dossiers brûlants. Les Tauliers, une émission Radio Kawa.
Radio
Kawa.
Je suis ingénieur informaticien. Je suis ingénieur informaticien. J'aime les ordinateurs, Windows 98.
Alors merci cher ami, et je suis très curieux aussi du jingle que va trouver l'artiste Multa. DJ Multa. Bon, en fait, j'ai envie de parler moi de nous. J'ai envie de parler de nous en fait, hein, parce qu'on parle rarement finalement de nous-mêmes dans cette confrérie.
Non, c'est vrai, ça arrive jamais.
On parle de nos jouets, mais rarement de ce qu'on fait vraiment tous les jours en fait. Hein.
Et que fait-on tous les jours ? Qu'est-ce que c'est notre travail ?
On est censé coder, on est censé être des développeurs, et en fait, Il y a plusieurs histoires récemment qui m'ont un peu perturbé. J'en ai parlé avec vous, les copains. J'en ai parlé sur mon blog perso, la notion de bulle. C'est que, bah, en plus, ça va parfaitement dans la lignée de ce que tu viens de décrire, David. Moi, ça m'attriste tellement ces communautés de gens qui sont tristes et pauvres, et pour moi dangereux pour le monde, que comme je vois bien qu'on n'a aucun pouvoir sur eux, je me dis, je vais me réfugier dans des bulles.
Dans la drogue.
Dans la drogue. Le sexe voilà, et le rock'n'roll. Ouais, c'est la fin de ma chronique.
Voilà, bah écoute, c'était vraiment super.
C'était vraiment
passionnant.
Parce que
c'est un très bon conseil pour tous les
et
gens.
En fait,
c'était la recommandation.
Les neuf qui restent.
Une de ces bulles, c'est les développeurs. Et les développeurs, pendant longtemps, on s'est moqué de nous. Moi, quand j'étais petit, j'étais un autiste dans ma chambre. C'était dangereux, l'écran, j'allais perdre les yeux, etc.
Ouais. Avant qu'on J'ai eu exactement la même chose.
Pareil, hein. Moi, ça a abîmé la télé. Impossible.
Voilà, avant qu'on devienne les geeks. Ça n'existait pas, le terme geek.
Les maîtres du monde. Voilà,
si, ça existait, mais c'était juste super péjoratif. Ça allait toujours un peu.
Non, je pense que le terme geek n'existait pas vraiment, je pense. Mais bon. Et du coup, cette communauté-là, on a nos propres codes. On a notre façon de s'habiller, nos références culturelles.
On écrit du code, donc on a nos propres codes.
Je t'ai vu t'allais faire la même blague.
Et nos propres blagues drôles. Donc, et
voilà, entre nous.
À un moment donné, j'ai pris conscience que malgré tout,
à un moment donné,
cette communauté que je pensais, tu vois, proche de moi, et donc en tant que vaniteux supérieur aux autres, m'était remplie des...
On en parle juste avant, ouais, exactement.
Des mêmes connards qu'on trouve dans toutes les autres communautés.
Et ah donc, je pense que le connard est bien réparti. Hein,
ouais, ça, c'est
le connard est écu probable.
Ouais, il est écu probable, exactement. C'est beau.
Et donc, j'avais écrit un article à l'époque sur les langages, les langages de programmation, hein, puisqu'on trouve souvent ce débat de je suis développeur C#, C++, c'est vraiment de la merde, ton truc, etc. J'ai toujours été très surpris par ces gens-là. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une liste non exhaustive des différents types de développeurs que j'ai rencontrés à travers... ma courte carrière, hein. Moi j'ai commencé à coder il y a plus de 30 ans en fait.
3 ans. Mmh. Ça va, c'est bien quand même.
Et vous aussi, je pense, hein, c'est à peu près. Je pense qu'on
c'est
à peu près.
C'est assez grand pour l'informatique quand même, c'est pas très long.
À l'échelle de l'informatique, il y a 50 ans, il n'y a pas grand chose.
Pas beaucoup, mais. Alors, on voit quand.
Un peu un dinosaure en fait.
Alors j'ai plusieurs.
33 ans, moi.
Plusieurs catégories. 33 ans, tu vois. Et toi, Delta Coche ?
Moi j'ai commencé, j'avais 9 ans, j'en ai 43, donc ça fait. Voilà.
À peu près, à peu près. T'es bon en code, mais t'es nul en calcul mental, mais c'est pas très grave.
Bah, 43 moins 9, c'est pas dur. Quoi.
Et, voilà. Et Multa, toi, je crois que t'as commencé peut-être pas.
34.
Ouais, je sais plus à quel âge t'as commencé.
Ouais, bon. Lui, ça fait 2 ans, grosso modo.
Ouais, moi, ça fait 2 ans.
Prends-toi du code, plus t'es manager. Donc, bon.
Lui, il code pas, lui. Ouais.
Non, non, c'est ouais, 20, plus de 20 ans. 23,
et donc,
24,
j'ai une liste, et on appartient à plusieurs de ces catégories. Donc, vous allez voir, je pense que vous allez vous y retrouver.
Merde.
Donc,
c'est fausse modestie. Toi, t'es là-dedans, non?
Attendez, il y en a dedans. Il y en a là, t'inquiète pas. Donc, je ne les ai pas classés par ordre particulier. On va commencer par ceux que j'affectionne particulièrement, que j'appelle les artistes. Alors, les artistes, ils considèrent qu'il y a une forme un peu artistique dans l'expression à travers le code. Voilà, moi, je suis aussi convaincu que c'est possible. Et que, du coup, on peut... C'est une approche scientifique, le code, hein, bien sûr, mais qu'il y a aussi un style dans le code et qu'on peut aussi réaliser des choses qui sont artistiques. Donc,
moi, je suis assez d'accord. Hein.
C'est une forme d'expression artistique, je suis d'accord.
Et donc,
mais en même temps, j'ai envie de pousser ça à tout. Finalement, quand il y a une maîtrise de quelque chose, tu peux rendre... là, je dirais un maçon, par exemple, tu vois, qui va faire une maison, bah, celui qui va
non,
particulièrement
pas,
bien
maçon,
réaliser son
pas
truc.
Déconner.
C'est de l'artisanat. Ouais, mais c'est de l'artisanat. Est-ce que c'est
d'un artisanat, il y a art.
Ouais, mais est-ce que s'il y a deux mots différents, ça veut dire que ça peut pas dire la même chose, non?
Ah, ouais, je pense que artisanat, il y a une notion de fait à la main, etc. Mais quelque part,
l'artiste est un artisan.
Une forme on est de des artisans du quoi. Code, mec.
Un artiste, c'est quand tu peux dire si tu comprends pas, ça veut dire que si t'as besoin que je t'explique, c'est que tu comprends pas le.
Ah bah il y a plein de mecs qui font
alors
du
que
code
de l'artisan,
comme ça,
hein. Tu peux l'apprécier. Non, ouais. C'est vrai. Genre Mathieu, par exemple.
Ouais, exactement. Mathieu, on va le retrouver. On va le retrouver plusieurs fois. Mathieu, vous inquiétez pas.
Ah d'accord, pardon.
Et donc,
vas-y.
De la même manière qu'un langage parlé, on va dire qu'on utilise tous les jours, le français, peu importe, cette langue peut servir. C'est un outil en fait. Ça peut à la fois servir à retranscrire une discussion. Donc c'est un peu bête et méchant, hein, comme on peut le voir dans certains qui font du code, et d'autres vont écrire des poèmes avec. Donc, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'on peut avoir cette notion de côté artistique. Ouais. Et un des domaines où je trouve que ça s'exprime le plus, c'est dans la démo scène. On en a déjà parlé, hein, c'est du code qui, finalement, ne sert pas à grand-chose à part exprimer une
être
forme
beau.
D'art. Voilà.
Ouais, mais il y a deux trucs différents. C'est-à-dire qu'il y a écrire du code pour faire, et le résultat une fois que tu l'exécutes, c'est de l'art. Et après, il y a des gens qui croient que la manière dont ils écrivent le code, en soi, ouais, juste le code en tant que tel, est de l'art.
Mais
c'est
moi, je crois, je crois qu'on peut faire du beau code. Quelque moi chose, aussi. Si je le regarde, je trouve ça beau.
Moi aussi. Voilà. Et en plus, je pense qu'avec l'expérience, on acquiert une certaine forme de visualisation et on voit tout de suite, sans comprendre le code, si le code il est beau ou pas. Et
comme dit David, parce que tu peux écrire des patterns, de la merde, toi, ou des poèmes.
Ouais, c'est vrai, ça, t'as jamais fait ça. Tu vois code, tu comprends pas ce que ça fait.
Le mec, il écrit une liste des courses, c'est dégueulasse. Par contre, il peut sur le même papier écrire un beau poème et tu vas le lire et dire, ah, ça c'est beau, tu vois. Et comme tu dis, tu vas avoir un pattern dans le code, tu vas dire, putain, c'est élégant, alors que je sais pas forcément ce que fait ce code-là.
Ouais.
Donc je savais que cette catégorie allait vous plaire, les copains. Donc alors, il y en a qui ne considèrent que c'est pas vrai. Il y en a qui considèrent que le code, ça n'a rien à voir avec l'expression artistique.
Etienne m'a pas l'air quand même un peu convaincu.
Pas du tout, non.
Si.
C'est possible, hein, c'est possible. Tu as le droit, Melta, hein, d'exprimer ton.
Il est interrogatif, il est interrogatif.
Alors, il y a une autre catégorie dans laquelle va se retrouver certainement plus Melta. Ce sont les alimentaires.
Mais je t'emmerde.
Ils sont là juste pour gagner de la thune facilement et leur vraie passion c'est plutôt le wakeboard et escalader des montagnes en faisant caca dans des sacs plastiques.
Ouais, je vois pas de qui tu parles.
Donc en fait,
tout ressemble à ce qu'une personne ayant existé.
Ça veut dire que j'ai pas écrire du code. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Non, je pense pas qu'il fait partie de cette catégorie, mais on en a tous aussi beaucoup rencontré. C'est des gens en fait qui sont un peu cherchés dans leur carrière, qui ont vu que finalement coder c'était pas si compliqué que ça, hein, parce que il y a plein de niveaux de complexité du code et on va dire qu'on peut écrire plein de codes sans que ce soit trop compliqué dès l'instant qu'on a un peu un esprit logique. Ils ont souvent une formation scientifique, mais pas forcément. Et ils sont là parce que ça paye bien et finalement, ils sont pressés de finir leur journée de travail, rentrer chez eux et faire totalement autre chose.
Pas par passion, quoi. C'est vraiment
juste... pas de la passion.
Alors, inversement, les passionnés, c'est un petit peu les alimentaires bars, du coup. Eux, ils écrivent du code pour eux-mêmes. Et dès qu'ils voient un truc qu'ils peuvent résoudre par du code, ils vont essayer de faire une app.
Ils le font.
Alors, bien sûr, on en a un parmi nous qui est particulièrement passionné. Hein. Je pense qu'on l'est tous, hein, j'espère. Mais Delta Koch, hein, qui lui, comme il est passionné de trucs bizarres en plus, comme les cartes magiques, peut écrire une app pour gérer ses cartes magiques et ensuite la proposer.
Urzegasserer.app.
Voilà. Il est en train de faire une app pour lister toutes ses apps.
C'est ça. Collecter les apps.
La méta-app. Et donc, j'arrive pas à savoir aujourd'hui. Moi, quand j'avais commencé le code, j'ai l'impression qu'on était tous passionnés. J'aimerais bien savoir un peu la proportion aujourd'hui dans l'industrie informatique des passionnés. J'ai l'impression que ça a quand même
et
pas mal.
Il y a les faux passionnés aussi, parce que j'ai l'impression d'en voir pas mal aussi. Des mecs qui en font des tonnes, tu sais, pour essayer de se donner, je sais pas, un genre ou un truc comme ça. Mais qui en fait
sont pas passionnés
à foutre, quoi. Ouais. C'est juste.
Il y a une vraie nuance à faire entre j'ai passé 14 heures par jour à coder, tu vois, versus dès que j'ai un peu de temps libre, mon plaisir c'est de coder. Quoi.
C'est ça. Ouais. Puis en plus, je suis pas du tout impressionné par un mec qui, justement, on va dire j'ai passé 14 heures à coder, je m'en fous.
Je pense que c'est pire.
Tu peux faire de la merde, quoi. Ouais. Et je pense de plus en plus, avec en plus l'expérience, moins tu codes et plus tu réfléchis avant et plus tu fais des trucs beaux. Quoi. Ouais.
Et pour répondre un peu à ta question, je sais pas s'il y a moyen de trouver les chiffres de qui est passionné, qui n'est pas passionné.
Bah, c'est possible. Mais c'est comme dans tous les métiers.
Ouais, en fait, et comme c'est une toute nouvelle industrie, maintenant que ça commence à devenir mature, c'est normal qu'au début, c'était plus compliqué. C'était plus dur de trouver des ressources, c'était pas un truc qui était vraiment mainstream, donc c'était forcément que des passionnés qui en faisaient.
Bien sûr.
Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que c'est tellement mature comme industrie, ou ça commence à devenir bien mature, que les gens ils le considèrent comme une carrière au sens alimentaire, justement, qui fait que ça devient pérenne. Et que
avant, il y avait les conducteurs de train qui faisaient ça parce qu'ils étaient passionnés, et puis aujourd'hui, il y a la SNCF qui fait grève. Quoi.
Mais d'ailleurs, on parlait des alimentaires.
C'est vachement mieux en fait. Non,
on parlait des alimentaires.
Je me rends compte que c'est con.
On parlait des alimentaires, mais qui, quand on regarde de manière globale, est passionné par son métier? C'est très peu. C'est une chance pour nous.
Alors ce que tu dis là, c'est vraiment ce que j'aimerais, si je dois ne transmettre qu'une seule chose à ma fille, c'est d'arriver à lui donner toutes les clés pour qu'elle trouve l'endroit où elle est passionnée. Parce que
c'est ça intérêt avec le code.
Non, ce qu'elle veut, même si c'est faire maçon, comme tu dis, je m'en fous.
Maçon,
c'est un très beau métier. Ouais. Du moment que quand elle se lève le matin, ça lui fait plaisir, tu vois. Et ça, je trouve que... c'est hyper rare aujourd'hui de se dire je me fais plaisir en allant au travail, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Non, mais c'est vrai qu'on a une chance immense en tant que dev.
Incroyable.
Alors, autre catégorie, les autodidactes. Alors, j'en ai croisé pas mal. Nous, on l'était au début, hein, parce que quand on avait 8, 9 ans, 10 ans, on s'est formé tout seul. Ouais. Et je pense qu'on est passé par cette phase où on était persuadé d'être des dieux du code, en fait, qu'on était des sombres merdes, en fait. Hein. Moi, j'ai vraiment, appris à coder correctement quand on a commencé à m'apprendre l'algorithmie, les patterns. Enfin, j'ai eu une formation d'ingénieur. Je pense qu'on n'est pas obligé de passer par une école d'ingénieur pour avoir cette formation-là. Mais bon, il faut quand même s'appuyer sur des gens qui ont réfléchi pas mal avant nous pour avancer le plus vite possible. Les autodidactes, malgré tout, il y en a qui sont des fois très impressionnants. Ils sont souvent quand même à côté de la plaque parce qu'ils pensent savoir et ils savent pas très bien. Mais c'est... mais on
donne-nous des noms.
Ouais, bah c'est ça, cite.
Ouais, je veux pas donner de nom parce que sinon ça va partir en vrille. Mais il y a une autre catégorie, qui sont un peu l'inverse, c'est les académiques. Alors eux...
Ah oui.
Eux, ils ont l'approche du code où tout doit être méga propre, structuré, respectant au mieux les patterns. Et c'est marrant parce que pour moi, ça ne rejoint pas forcément le côté artistique. C'est que c'est un peu des casse-couilles, c'est un petit peu des extrémistes du code. Mmh. Ouais. Et donc, des fois,
Ils ne codent pas pour le code, ils codent pour les designs. Ça, justement, j'étais à une conférence la semaine dernière où il y avait le créateur de Doom, Exane, ouais. Quake, Heretic, etc. Donc, John Romero, qui racontait que les design principles, c'est juste des outils. Alors, ce que toi, tu dis, là, les académiques...
Et les gens oublient que
ils visent... Leur objectif, c'est d'utiliser un principe et non pas de fournir un résultat.
Ça, c'est débile. J'en ai connu plein des comme ça.
Ouais,
j'en ai connu plein. Et je pense qu'en fait, la maîtrise dans l'informatique, c'est aussi cette capacité à avoir de l'arbitrage.
Et donc, pragmatique.
Ouais, et à savoir, voilà, j'ai besoin de tel ou tel outil... Souvent, j'aime bien parler de l'informatique en termes d'outils, de parler « ouais, j'ai une scie ou j'ai un tournevis ». Et des fois, il y a des mecs, ils connaissent que le tournevis et ils pensent que le tournevis, c'est mieux que le clou pour faire toutes les tâches.
C'est exactement ça. Quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou, en fait.
C'est ça. Et du coup, je pense que la maîtrise un peu de notre art, c'est justement quand tu arrives à faire des bons arbitrages. Et c'est difficile de faire des arbitrages. Moi, j'étais donc en société de service et je suis passé par là où on voyait des mecs qui faisaient de l'over-engineering, des trucs de fou, quoi. Et donc, voilà, c'est comme tout, quoi.
Alors, moi, je suis d'accord que c'est... Alors, pour moi, c'est un des pires, qui sont souvent aussi architectes, étonnamment. Mais nous, on en a rencontré dans des projets qu'on a gérés avec David. Et ça a failli être une catastrophe. C'était très difficile à gérer. Pour moi, un développeur... Alors, c'était avant que je commence à réfléchir à tout ça, il y a longtemps. Moi, c'était évident qu'un développeur, c'était forcément pragmatique. C'est-à-dire qu'il devait faire exactement ce que tu disais, c'est faire des choix... d'arbitrage, ne pas forcément aller sur le truc, le pattern soi-disant ultime, mais prendre en compte la complexité, la maintenance, prendre le langage qui est le plus adapté aux besoins. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi, ils sont butés sur un seul langage et du coup, ils se ferment plein d'options.
C'est limite religieux, ça.
Oui, alors,
c'est limite religieux.
C'est justement, c'est une catégorie à laquelle j'oppose, c'est les fanatiques. Donc, on a parlé des pragmatiques. Pour moi, c'est quelque chose vers lequel il faut tendre. Les fanatiques... Et c'est ça qui est amusant, c'est qu'on rejoint encore ton sujet précédent. Finalement, c'est finalement que l'esprit humain qui fonctionne comme ça. Il y a des gens qui sont ultra fermés d'esprit, je pense, qui vont juger que sur une plateforme, voire un langage.
Ça peut être par facilité, j'ai envie de dire.
Ou feignantise, exactement. Voilà, ouais.
Le mec, c'est dur de se remettre en question.
Il connaissait plus, il n'a pas envie d'entendre parler d'autre chose. Donc pour lui, il va essayer de dénigrer tout le reste pour justement se conforter dans son choix en disant « mais c'est moi qui ai raison, je n'ai pas besoin d'apprendre autre chose, ne sortons pas de ma zone de confort ».
Ouais, je pense effectivement. Et alors, j'ai certainement un biais. Moi, dans toutes les communautés que j'ai rencontrées, j'ai trouvé que la communauté web était ultra ouverte d'esprit. Et c'était un peu peace and love et tout le monde s'aimait et tout le monde s'écoutait. Étonnamment, les plus vieux développeurs, genre les développeurs C++, c'est ceux avec lesquels j'ai eu le plus de confrontations et d'ennuis. Je ne sais pas pourquoi ils ont un espèce de complexe.
Alors, tu veux donner des noms ou pas encore?
Les communautés web, j'aurais tendance à dire que ce n'est peut-être pas sur le langage, mais c'est beaucoup sur les frameworks, parce que tu vas vraiment avoir des gens qui sont limite fanatiques sur j'utilise React plutôt qu'Angular ou Vue. Le problème, c'est décalé.
Ils pondent un nouveau framework tous les deux jours, donc les mecs, ça les force un peu à se renouveler, quoi.
Mais je trouve que même dans la communauté web, David, il y a du...
Oui, bien sûr.
Il y a du prosélytisme.
C'est à partir du moment où moi, je suis sorti de la communauté pure Microsoft, on va dire, donc qui était globalement très .NET oriented vers une communauté web qui était multiplateforme par essence et finalement avec plein de différents rôles. C'est-à-dire que il y a les gens qui font du CSS, par exemple, se considèrent un peu développeurs. Donc, il y a tout un débat là-dessus, par exemple. Moi... Avant que je sorte, j'aurais pu considérer que les gens qui faisaient du CSS, pour moi, on va dire stricto sensu, ce n'est pas du développement, le CSS. Pourtant, l'approche qu'ils ont derrière, des fois, il y a une logique, une forme de résolution des problèmes qui est un petit peu algorithmique, des fois, sur l'utilisation de certains patterns en CSS. Bon, ils ont quand même un esprit qui est proche du nôtre. Et finalement, tu t'en fous un peu. On est dans la même communauté. Je ne vois pas l'intérêt d'aller dénigrer, tu vois, la personne qui est de l'autre côté parce que elle fait un truc que tu ne comprends pas ou tu ne maîtrises pas. Et donc les fanatiques... Ouais,
du coup, elle te force quelque part à te remettre en cause. C'est toujours la même question.
Hein. Ouais, et les fanatiques sont vraiment très pénibles. Donc c'est souvent des gros trolls qui arrivent et qui en plus, qui étaient assez amusants, sont persuadés d'être des cadors dans leur domaine, mais ils n'y comprennent pas forcément grand-chose. Parce que, assez logiquement, le fait qu'ils aient un esprit assez fermé et qu'ils ne se remettent pas en cause, bah, dès l'instant qu'ils pensent avoir acquis un savoir, c'est souvent faux et ils sont un peu emmerdés.
Et ça, c'est pour moi le premier critère de méfiance. Et quand je vois des mecs qui se prennent pour des stars, dans notre métier, c'est dur, hein, franchement. Parce que n'importe qui est déjà bon peut se faire démonter. Et en plus, par un gamin de 10 ans qui vient de démarrer, ça demande à avoir un peu de recul quand même. Donc les gars qui viennent et qui roulent des mécaniques, c'est toujours le premier petit sourire que j'ai.
Et tu verras toujours que les meilleurs que j'ai toujours rencontrés, ce sont toujours les plus calmes, tu vois. Quand t'as Carmack qui parle, qui est à mon avis un des meilleurs développeurs que je connaisse, le mec il a pas besoin de rouler des mécaniques.
Anders, il se la raconte pas. Anders.
Ou Anders, c'est des gens.
Puis Anders, il fait encore des pull requests, quoi. Donc c'est quand même impressionnant. Si vous suivez un peu le développement du TypeScript, c'est lui direct, il fait des modifications dans le langage, c'est hallucinant, quoi.
Donc c'est des gens comme ça qui ne la racontent pas. Quand tu les croises, ils sont tout simples.
Ouais.
Ils boivent un coca, ils boivent du café, ils te forcent pas à suivre leur choix, ils t'écoutent.
Alors, dans les mauvais profils, hein, il y en a deux autres qu'on connaît aussi particulièrement, malheureusement. Ceux qui souffrent du complexe de supériorité, donc qui ont besoin à tout prix de complexifier ou de rendre des choses simples super complexes pour donner l'impression que... Voilà, pour exister.
Alors, on dira pas de nom, mais on pense tout ça. Hein, là,
derrière, proche... alors, la frontière de ça, des fois, ils basculent ensuite dans les mythos. Il y en a pas mal, les mythos. Alors les mythos, c'est souvent des très mauvais développeurs, mais qui vont tenter de mystifier les autres, les esprits faibles, leur supériorité. Donc souvent dans les trucs facilement identifiables, ils vont balancer une tonne d'expressions ou patterns dont ils comprennent manifestement pas le sens, mais avec une certaine forme d'aplomb qui...
Et d'assurance.
Et d'assurance qui va quand même perturber l'autre. Et ça, j'en ai rencontré, moi, malheureusement. Moi, je suis étonné qu'ils durent aussi longtemps dans l'informatique, parce que c'est quand même pas un monde énorme. Et souvent, on parle d'eux, mais on n'ose jamais les allumer en public, parce que finalement, ils ont leur petite communauté. On parlait tout à l'heure des platistes. Ils ont leur communauté, comme tu le disais, 200 000 personnes. Et finalement, quand le mec arrive finalement à construire son personnage, il finit par y croire totalement. J'ai l'impression qu'ils y croient vraiment, leur connerie. Si jamais tu essayes de les contester, alors là, tu te prends toute la communauté de fanatiques associés sur la tronche.
Et,
et donc, tu te dis, pourquoi je vais me faire chier finalement à les démonter, celui-là mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils arnaquent plein de gens à chaque fois en racontant vraiment de la merde. Et ils peuvent arnaquer, par exemple, d'autres personnes qui ont le syndrome de l'imposteur. Donc, c'est un peu l'inverse. C'est souvent d'excellents développeurs que j'ai rencontrés, mais je ne sais pas pourquoi, malgré plusieurs réalisations qu'ils font, ils sont persuadés d'être des tanches. Donc, c'est plutôt bon signe, en fait, de commencer comme ça.
C'est peut-être un peu pas tant d'être d'une tanche. Ça m'arrive d'avoir le syndrome de l'imposteur, par exemple, des fois. Mais alors que je pense que j'ai quand même fait 2-3 trucs en informatique.
C'est plutôt un fact-check personnel. Tu te dis, est-ce que là, je suis toujours là où je pense que je suis, tu vois. Ouais. Tu te remets en question.
C'est ça, c'est plutôt bon signe.
Ouais,
c'est plutôt bon signe, je suis d'accord.
Mais bon, on a tous eu ce moment-là. Alors, dans les autres, j'ai mis les experts consultants. Alors, je sais que tu as été consultant, Seb. Donc, les SS2I, c'est quand même un monde différent des éditeurs de logiciels.
C'est clair.
Donc, moi, j'étais un petit peu consultant et j'ai travaillé beaucoup avec des consultants quand j'étais ingénieur support. Et c'est quand même une façon de travailler, d'écrire du code qui est assez différente de ce qu'on peut retrouver chez les ISV. Et ça du coup, ça étend ce que je voulais dire sur les développeurs. Il y a plusieurs façons d'écrire du code. C'est-à-dire qu'entre un consultant, un éditeur de logiciel qui va faire une application métier ou un développeur de jeux vidéo, par exemple.
Ça, c'est l'exemple.
Les compétences,
c'est le grand écart.
C'est vraiment très différent. Donc, en fait, on est tous sous la même umbrella, comme disent les Américains. On est dans la même communauté, on devrait se respecter. Et il n'y a pas une façon de faire qui est meilleure que les autres. C'est vraiment. On est censé être, je pense, générique à la base, prendre donc, l'algorithmie, être ouvert d'esprit. Et être capable ensuite de se spécialiser vers les différents types de profils que j'ai donnés. Par exemple, les ingénieurs support, moi je me souviens que j'avais une vision très biaisée de la technologie, forcément, puisque je voyais que les défauts. Donc je connaissais très bien ce qui merdait dans une techno spécifique. On m'apprenait à utiliser des outils comme WinDBG pour analyser dump et mort et tout. T'as l'impression d'être surpuissant à un moment donné, parce que pareil, il y en a plein qui se la racontaient avec... tu voyais, c'était la matrice, moi je voyais certains, ils étaient tellement habitués à regarder des dumps, qui voyaient comme des patterns qui s'affichaient devant eux, comme vraiment la matrice avec des chiffres verts qui défilaient. Ils disaient, ah ben là, je vois que c'est un objet com, ah là, je vois la vtable, ah ben là, je saute dans la mémoire, ah ben là, je vois ce qui se passe, etc. Rien qu'en regardant finalement des chiffres et un peu d'assembleur, quoi. Donc, et bon, pour autant, ces personnes-là étaient incapables d'écrire du code pour
ouais, éditeur de logiciel, super spécialisé, ouais.
Et donc, ça posait problème.
Mais c'est vrai dans tous les métiers, encore une fois aussi. Mmh. Je pense que l'ingénieur fusée qui est spécialisé dans le carburant, il ne sait pas brancher les fils pour le contrôle. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est, on est obligé dans tous les métiers un peu techniques de se turbo-spécialiser, je pense.
Alors, pour faire plaisir à Multa, il y a ceux qui font du code de merde, puisqu'on devait parler un peu de caca. Et donc, on...
Ah oui,
bah, oui, oui, bah, y a ceux qui chient littéralement du code. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe. Mauvaise digestion, mais en tout cas, le code est indigeste. Et alors, je ne sais pas s'ils sont proches... Il y a les évangélistes, dont nous avons fait partie un temps. Alors, les évangélistes sont intéressants, puisque... Alors, souvent, moi, je me souviens des gens qui ont rejoint nos équipes qui pensaient que nous, les évangélistes, à l'époque, on était les plus gros cadors d'une technologie, ce qui était totalement faux. Moi, ça me faisait doucement rigoler. En fait, on est là pour simplifier des concepts et créer des démos qui sont très rarement représentatifs de la vraie vie, mais c'est un but de communication marketing, en fait. Et c'est une façon, à nouveau, de présenter du code ou d'écrire de code, tu vas volontairement écrire le code de manière
meilleur profil.
L'essentiel.
C'est vraiment du marketing, tu le dis.
Parce qu'après, dès que tu essayes de faire une appli en vrai, tu fais pareil, ça coince au bout de 5 minutes. Ah ouais, mais comment je fais ça?
Donc, mais pas vrai, c'est un jeu de compétences qui... Moi, j'ai trouvé ça très amusant, très rigolo, mais en fait, certaines personnes, quand ils nous approchent ensuite en disant mais en fait, t'es pas la star du Silverlight à l'époque où j'étais... je pense que je suis une grosse quiche en Silverlight. C'est-à-dire, dès que tu fais un projet de 2 semaines de code sur Silverlight, tu seras nettement meilleur que moi, t'inquiète pas. Donc c'était amusant, cette perception qu'on pouvait avoir aussi. Et pour moi, un évangéliste n'est pas pour autant un mauvais développeur. C'est juste que son métier l'oriente sur une façon particulière de présenter du code. Donc voilà, donc ce que je voulais dire, c'est que méfiez-vous de tous ces méchants profils. Je comprends toujours pas, moi, certaines catégories de fanatiques. Moi, j'ai toujours aimé plein de langages différents. Je pense qu'il faut être pragmatique au maximum. C'est pas toujours simple. Hein. On a toujours un petit côté fanatique. Moi, je reste très amoureux du C#, alors que je passe ma vie à faire du TypeScript et du JavaScript aujourd'hui. Pour moi, C# est le langage, je pense, qui m'a le plus impressionné dans tous les langages que j'ai rencontrés. Il y avait récemment un petit sondage des différents langages et les évolutions des langages les plus populaires à travers le temps. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette animation, c'était rigolo.
Ouais, c'était intéressant. Ouais.
Et moi, dans ceux qui sont ressortis, il y avait Ada, par exemple. Ada, moi, j'ai vraiment adoré ce langage quand je l'ai appris, parce que j'avais fait du C avant, et Dieu sait que C, t'es pas bien encadré quand tu commences pour apprendre sur du C, tu vas faire plein de conneries. Alors c'est peut-être bien, hein, je ne sais pas. Je suis toujours sceptique sur la pédagogie. Récemment, il y avait un autre sondage sur Twitter qui disait vous allez conseiller quel type de langage pour démarrer auprès d'un débutant. Il y a plusieurs personnes qui ont mis C. Moi, j'étais surpris. Je ne sais pas ce que vous conseillerez comme langage pour débuter de votre côté.
Je pense qu'effectivement, c'est un peu compliqué, mais du coup, si tu t'en sors,
tu comprends.
T'as
marche,
des concepts
quoi.
Que tu comprends vachement mieux que si tu commences direct avec genre. Si tu faisais du WinForm et que tu fais tout dans l'éditeur.
Il y a beaucoup de gens qui commencent avec Python aujourd'hui.
Ouais, Python. Python, c'est après dans les universités par exemple maintenant. Il y a Python, il y a le Java. Et le C# revient, figurez-vous. Le C# revient de plus en plus.
Ah bon ?
Et pourquoi ? On a posé des questions à cause d'Unity. Ouais. Et il y a des mecs qui ne savent même pas ce que c'est finalement que le C# et la plateforme Microsoft parce qu'ils l'apprennent dans le cadre des jeux vidéo et d'Unity.
Ouais.
C'est fou, hein ?
Donc voilà. Merci beaucoup, le langage n'est qu'un outil, n'oubliez pas les copains.
Alors je m'excuse au préalable auprès de tous nos poditeurs qui ne sont pas développeurs, parce qu'on a bien lâché du sigle et des...
Ouais, mais ça fait du bien.
Mais voilà, donc vous avez eu une expérience développeur, c'est toujours intéressant à entendre. Et surtout, regardez sur Netflix la série qui s'appelle, le documentaire qui s'appelle En Bref. Le dernier épisode qui est sorti jeudi dernier parle du code. Et donc, tout ce que vient de dire Davrous là, il y aura des très bons exemples de ce que ça veut dire.
Plus clair.
Comment on est parti du langage binaire vers les langages de très haut niveau, plusieurs dont tu as cité, David, là. Et même, c'est amusant parce que parmi les catégories de développeurs que tu as cités, certains sont repris dans le...
C'est
l'épisode
cool.
De En Bref. Vraiment,
regarderai.
En Bref, le code. Merci Davrous, et on va donc maintenant conclure ce podcast en passant aux recommandations. Peut-être que je vais passer la parole à Multa.
Allez. Alors moi j'ai trois recommandations.
Ah bah ouais, t'as qu'à
y
être.
Il y en a deux qui sont
carrément quoi.
Donc je suis allé voir Zombieland 2. Je sais pas si vous avez vu.
Ah, j'ai adoré le 1.
Le 1 était vraiment énorme. Le 2 est peut-être pas tout aussi bien, mais vraiment bon. Je recommande d'aller le voir.
Recommandé, ouais. D'accord.
Ils ont réussi à. Ils n'ont pas répété exactement toutes les mêmes blagues, ils ont un petit peu rebondi sur celles d'avant, donc c'est vraiment sympa. Et donc j'ai vu ça ce week-end, et ce week-end aussi j'ai découvert une nouvelle série sur Netflix, deux zombies aussi, qui s'appelle Daybreak, c'est un truc de zombies. Hein,
mais c'est plutôt zombie sérieux, genre ici, Walking Dead,
non,
ou plutôt zombie fun?
Non, c'est plutôt zombie fun, genre Zombieland, je dirais. En fait, le principe, c'est que on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bon, il y a une bombe qui a explosé. Il y a tous les gens qui étaient plus âgés que 18 ans qui sont devenus zombies. Et donc la Terre est run par les adolescents, quoi. Et donc en gros, c'est un peu une genre de Mad Max mais par des lycéens. Et c'est assez marrant et c'est pas un truc exceptionnel, mais c'est assez bon côté zombie.
Si on aime, disons, le contexte.
Si t'aimes bien les trucs post-apocalyptiques, un peu drôle, t'as envie de passer un bon moment et tout, c'est vraiment super sympa. Et le dernier recommandation que j'ai, c'est un bouquin qui s'appelle Tools of Titan, donc qui est pas un bouquin de qui est pas de la fiction, mais qui a été écrit par un gars que j'écoute beaucoup en podcast qui s'appelle Tim Ferriss. Et le mec, j'en ai déjà parlé 2-3 fois, il interview plein de high performers dans plein de domaines. Ouais. Donc ça peut être en business, mais ça peut être aussi en sport, ça peut être en n'importe quoi. Et il a résumé tous les épisodes qu'il a fait, il a des centaines d'épisodes, en un seul bouquin dans lequel tu as la majorité des trucs que recommande chacun de ses high performers. Donc tu peux les lire les uns après les autres. C'est super intéressant
à
lire.
Un best-of.
Voilà, un peu un best-of. Ça fait 600 ou 700 pages. Donc faut avoir envie de lire de la non-fiction. Mais si vous aimez bien ça, c'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. Merci, voilà. Jeune homme. À quoi ça aille ?
Yep. Donc moi, c'est pour parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Disco Elysium. Il y a eu pas mal de tests qui étaient un peu dithyrambiques là-dessus. Moi, c'est un style que je connais pas du tout, ce style un peu
le
RTS.
CRPG, ouais.
CRPG, voilà. Ouais. Moi, je le décris.
Ça veut dire quoi,
CRPG ? Ouais,
moi, comme je le décrirais, si tu veux, plutôt, pour donner une illustration, c'est. Je sais pas si vous connaissez Mopiti Island, mais ce serait un Mopiti Island avec des caractéristiques de.
C'est quoi Mopiti Island ?
Alors, Mopiti Island,
CRPG, c'est Classical Role Playing Game. Ouais. C'est des jeux de rôle classiques, tu vois.
C'est quoi, comme Ultima à l'époque ou les trucs comme ça ?
Tu sais que Wizardry et Ultima sont les deux qui sont cités en exemple comme les fondateurs du CRPG.
Ah, d'accord, ok.
Un exemple, par exemple, c'est Planetscape Torment.
Donc, c'est un RPG, alors pourquoi on a besoin de mettre CD ?
Parce que tu as les JRPG qui sont plutôt les RPG de type et d'orientation japonaise.
Ah, c'est technique là. On rentre justement, c'est comme pour les développeurs, là, t'as,
les vrais RPG, c'est
t'as
les
vraiment
RPG,
des grosses catégories pour les jeux vidéo. Bref. C'est quoi pour moi, c'est une sorte de monde ouvert où vous pouvez aller discuter avec des gens et tout se fait par le dialogue.
Il y a pas de combat, ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est vraiment fait par le dialogue. Vous allez construire, toute votre déroulé de jeu par rapport à ce que vous dites aux gens et vos interactions. Et en fait, ce jeu, vous vous réveillez un jour. Amnésique complètement, et vous devez lancer en fait une enquête policière, parce qu'il s'avère que vous êtes un policier. Je spoil pas, hein, vous inquiétez pas. Je fais attention.
Vous appelez Sherlock Holmes ?
Non, mais en plus, ils sont malins parce qu'ils vous mettent dans un contexte qui est hors du temps, parce que c'est pas vraiment, on peut pas trop se rapprocher à un temps qu'on connaît, parce qu'il y a des choses qui sont néo-rétro, c'est un peu particulier. Ils vous mettent un peu hors de l'espace parce qu'on sait pas trop si c'est sur Terre ou pas. Il y a des noms de villes et des noms de pays qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a connu ou ce qu'on connaît maintenant. Donc voilà, on vous perd complètement et c'est fait complètement exprès. Et c'est à vous de vous reconstruire un peu votre mémoire en ayant des dialogues avec les gens et en même temps, justement, lancer cette enquête policière avec un de vos compères qui s'appelle Kim et qui va vous aider justement à faire tout ça. Et ce qui est rigolo dans le jeu, c'est justement la gestion des capacités. Le joueur, il a plein de capacités différentes. Par exemple, il a de la rhétorique, il a des capacités qui peuvent être plutôt dans la psyché, des catégories plutôt de logique, des catégories plutôt physiques.
Et c'est toi quand même qui mets des points pour
faire
évoluer.
Alors c'est toi qui vas orienter tes points, effectivement. Tu vas gagner des points en avançant dans l'histoire, donc tu vas pouvoir placer des points. Et il y a certaines agilités qui sont bloquées, parce qu'au départ, tu vas dire mon personnage, il est plutôt dans la logique. Et donc forcément, physiquement, il va être moins bon. Donc, tu vas pas pouvoir mettre autant de physique que ce que tu voudrais des fois. Et donc, le jeu va être complètement différent suivant le profil de personnage que tu vas choisir au départ. Et c'est assez impressionnant parce qu'on se demande comment ils arrivent à retomber sur leurs pattes tout le temps. Ouais. Ça doit être vraiment des branches logiques de décision qui doivent être complètement hallucinant. Et moi, j'avais jamais trop joué à un jeu comme ça, et c'est vrai que c'est super sympa. La seule contrainte, c'est que c'est tout en anglais.
Il n'y a pas de traduction prévue.
Par contre, le jeu, il a été organisé autour de trucs pour qu'il soit localisé, parce que j'ai regardé un peu les entrailles du jeu. Donc, je pense qu'il va y avoir des versions localisées qui vont arriver.
Il n'y a pas du tout de combat, du coup.
Il y a des combats, mais par le dialogue. Tu ne vas pas te battre en temps réel avec une arme ou une épée. C'est vraiment comme un Monkey Island, sauf que là. La grosse différence par rapport à Monkey Island, c'est justement ses capacités. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que ses capacités, elles te parlent à toi. Par exemple, quand tu vas lancer un dialogue avec un personnage, si tu as beaucoup de logique, et ben la logique, elle va t'aider en disant « Ah ouais, mais hier, il avait dit ça, donc du coup, c'est pas possible. » Et tu vois, du coup, ça va t'aider, toi, dans ton déroulé dans ton de dialogue, parce que tu as beaucoup de capacités de logique ou rhétorique, et du coup, tu vas avoir plus d'éléments à lui opposer. Contrairement à quelqu'un qui aura mis beaucoup dans le physique, ou dans le physique, par exemple, il va pouvoir impressionner quelqu'un ou peut-être se battre avec, mais il n'aura pas besoin de parler autant, ou il va y avoir des choses différentes.
Donc,
ça donne ça donne une richesse folle au jeu. Et en plus, les gars, ils sont bons parce que ils ont choisi vraiment des pistes complètement différentes. Ils essayent de te pousser à prendre des positions, par exemple politiques.
Il paraît qu'il est difficile de rester au centre.
Mais c'est ça, ils font tout pour te forcer à prendre des décisions fortes. Sachant qu'en plus dans le jeu il y a des décisions qui vont complètement influer sur la suite et que tu peux foirer. Et du coup tu vas aller dans un chemin complètement différent de l'histoire. Donc c'est un truc de malade. C'est vraiment super. C'est un studio estonien qui a fait ça.
Ouais.
Il y a une grosse influence française dedans. C'est marrant, on retrouve des mots français, des expressions françaises. Ça fait assez plaisir. Et en fait, ça avait commencé en 2015 le développement. Et tout le monde pensait que ça allait être du vaporware, qu'ils allaient foirer. Et apparemment, ils ont réussi l'un des meilleurs jeux du genre.
Ouais.
Donc, si vous aimez un peu ce genre de jeu, c'est super. Et pour finir avec ça, moi, donc j'ai fini le jeu là ce week-end. Et comme il y avait certaines quêtes que j'avais pas pu faire parce que justement ça reposait sur des capacités que j'avais pas pu développer, j'ai fait un petit trainer. On avait déjà parlé des trainers dans la confrérie là. Et donc là, je pense que c'est un des usages qui peut être marrant.
J'ai
mis 36 heures à finir le jeu et j'avais pas envie de le refaire et de repasser 40 heures pour tout voir. Et du coup, avec ce trainer, je peux aller voir les trucs que j'avais pas réussi et voir
ce
qu'il y avait
derrière.
Mais
c'est un truc officiel ou ça a été fait
Qu'est-ce qui est officiel
le trainer là en question?
C'est moi qui l'ai fait.
C'est toi qui l'as fait, d'accord.
Ouais, je l'ai fait.
D'accord.
Je l'ai fait. C'est un jeu Unity, alors donc du coup j'avais plus de facilité
d'accord.
parce que je connais un peu comment ça marche.
Pirate.
Mais ouais. Et du coup, on mettra les liens dans le site et j'ai fait un repository GitHub. Vous pouvez voir comment c'est fait. Okay. Voilà.
Super. Davrous.
Alors moi j'aurais une recommandation, une contre-recommandation si cela vous dérange pas. Commençons par la recommandation. Donc j'ai mon fils qui m'avait parlé d'une série Netflix qu'il avait regardée il y a quelques temps et ça m'avait inquiété parce qu'en ce moment lui il est dans la phase où il est très ouvert d'esprit, hein, donc il est dans le bon profil de développeur potentiel, donc il s'intéresse à vraiment beaucoup de choses. Je pense que c'est la phase jeune de son esprit et il me dit ouais, j'ai regardé un truc sur les tueurs en série pour voir
Mindhunter,
voilà. Et donc il m'explique un truc, un mec qui est, donc je vais pas spoiler, mais même si c'est basé sur des histoires vraies, un mec qui fait des trucs horribles avec des femmes et tout, et il me raconte le truc, je me dis putain mais qu'est-ce que c'est. Et moi j'ai peur que ce soit un documentaire et que tu vois qui, comme un psychopathe qui s'alimente de trucs dégueulasses, tu vois. Donc je me suis dit bon, je vais quand même regarder de quoi ça
tout
parle.
Tout de suite la vision noire de la situation.
Bah ouais, mais enfin bon, quand t'as un gamin t'es toujours un peu inquiet de qu'il soit pas influencé par les trucs vraiment néfastes. Bon, en même temps normalement sur Netflix t'es quand même safe, mais bon.
Ouais, t'es assez protégé quand même.
Et finalement je découvre que c'est une série vachement bien faite qui retrace l'histoire de la création des profilers au FBI avec des mecs où en fait ils sont un peu désarmés au bout d'un moment parce qu'ils connaissaient pas mal de types de tueurs qui étaient finalement assez faciles à comprendre, des mecs qui tuaient pour de l'argent, du sexe, des religions, etc. Bon, ça, on avait un peu l'habitude de tout ça, mais finalement, il y a un type de tueur qui émerge dans les années 60, c'est des gens, on ne comprend pas du tout leur motif. Pourquoi
les céréales killers.
Ils appellent d'abord les tueurs en séquence avant de créer le terme serial killer. Et donc, c'est vraiment bien fait. L'acteur principal qui est celui qui est qui crée un peu, enfin qui est un petit peu au centre de tout ça, il ressemble à Emmanuel Macron, c'est assez perturbant. mais il est chouette. Et donc bon, j'en suis à la deuxième saison, j'ai pas encore fini, mais je vous le conseille. C'est un truc que j'ai été agréablement surpris par la série. La contre-recommandation, nous avons été voir ensemble, cher ami, ce week-end, pendant que tu nous faisais l'honneur de venir en France, en attendant là dans un resto hors du commun où tu nous as invités, Terminator, le dernier Terminator. Alors, moi je suis client de ce genre de truc, hein. Bon, de temps en temps, je dis que certains films c'est de la merde, mais bon, je passe quand même un bon moment. Terminator, ce qui m'inquiétait, c'est que dans la bande-annonce, je me suis dit, ah, ils ont balancé pas mal de trucs comme dans la bande-annonce, c'est jamais bon signe. C'est que peut-être qu'ils veulent tellement appâter de chaland qu'en fait, il n'y a rien derrière.
Ils ont tout mis, ouais.
Et on a regardé le film. Pendant le premier quart d'heure, en gros, c'est une grosse partie de la bande-annonce, donc je me dis, oh, je suis rassuré parce que j'en ai pris plein la gueule le premier quart d'heure. C'est bien con comme il faut. Comme tu me disais pendant le film, c'est bon quand on met tous les potards à fond, c'est vraiment ça. Hein. C'est. Complètement décomplexé, hein. C'était totalement con. Et moi, je suis assez client de ça, hein, dès l'instant que je vais voir ce film dans cette optique. Hein. Donc, par contre, d'un seul coup, ça s'arrête. C'est assez lent, au bout d'un moment, l'histoire d'installer le personnage. Ils nous refont un truc de l'histoire Voyage dans le temps. Je vous laisse découvrir si vous avez vraiment envie d'aller le voir. Un peu plus tard, nouvelle scène d'action. C'est la deuxième partie de la bande-annonce. Et en fait, il y a une seule scène d'action qu'on n'a pas vraiment vue dans la bande-annonce, qui est, bon, qui est pas mal, mais sans plus. Moi, j'ai trouvé ça, du coup, quand même assez décevant, enfin, bien décevant. C'est cool de revoir Sarah Connor. Non, c'est à côté. pour Terminator, il est vieux et il a une famille et il caresse des chiens dans sa cabane. C'est n'importe quoi. C'est totalement n'importe quoi.
Le vieux spoil, quoi. Vous ne pouvez plus aller voir Terminator.
Pas, c'est fini, quoi. Mec.
Donc,
j'ai regardé plein de critiques, je vais y arriver. Qui sont no spoil, et tout le monde dit que c'est vraiment bof, c'est vraiment dommage, quoi.
Ouais. Non, c'est... Alors que soi-disant c'était censé être la vraie suite de Terminator 2 selon James Cameron, je sais pas combien il était payé pour raconter cette connerie. Je veux pas faire le vieux, nostalgique qui trouve que Terminator 1 et 2 c'était les meilleurs, parce que les autres j'ai quand même pris du plaisir hein, sur les autres, même le 3 avec la fille, ça m'a fait marrer. Celui où c'est l'histoire de John Connor là, avec Christian Bale, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Enfin, tu vois, je suis assez client de Terminator en général, mais alors là c'est clairement le moins bon de toute la série, quoi. Donc sauf si vous êtes vraiment super fan, parce qu'il reste des effets spéciaux heureusement qui sont au niveau, hein, mais déception.
Déceptionnage. Alors, je partage un peu ça. Je n'ai pas passé un mauvais moment, mais ce n'était pas transcendant. Quant à moi, je vais faire ma recommandation mainstream, puisque Davrous en a fait une, mais pas complètement. Moi, j'ai joué et fini Link's Awakening sur Switch. C'est une pure petite merveille. Alors, vous arrêtez pas aux petits défauts techniques. La Switch, elle trouve ses limites. Le jeu saccade un peu. Ils ont mis des effets spéciaux de blur devant et derrière. Et elle en sue du sang, la pauvre, pour tout animer.
Moi, ça ne saccadait pas du tout chez moi.
Ah, enfin, c'est un fait reconnu de tout le monde. Et quand tu sors d'une zone, etc., tu rentres.
Je crois que Multa, il a les yeux qui saccadent, donc ça se trouve, il est synchro avec la fréquence.
Moi, je pense que je suis trop fan.
Ouais, mais après, le jeu est génial, il est tout mignon, les musiques sont super cool, l'histoire, je m'en souvenais plus. En fait, j'ai refini le jeu avec un vrai plaisir. Le dernier boss est plutôt compliqué. J'ai un peu galéré pour le tuer. Donc, vraiment, voilà, je vous recommande. Link's Awakening, c'est un très bon investissement. Et d'ailleurs, annonce.
Ah!
Je revends tous mes jeux.
L'autre fait son marché.
Switch. Parce que je bascule tout en numérique. Je les avais achetés en physique et je continue ma quête de numérisation de tout ce que je possède. Voilà. Donc, si vous voulez.
T'as pas joué, acheté le dernier Luigi Mansion par hasard en physique ?
Si, si.
C'est vrai.
Je l'ai acheté. Il sort la jeudi et je l'ai précommandé en numérique.
Ah, tu l'as pris en.
Pareil, Pokémon Sword, je l'ai précommandé. Là, il sort.
Ah, donc, ouais, parce que j'étais prêt à le racheter en physique, Luigi Mansion.
C'est un peu ce que je fais depuis le départ. Et du coup, l'autre avantage, c'est que t'as pas à t'emmerder à changer les cartouches.
Exactement, il y a deux intérêts. Il y a pas à changer les cartouches. Et du coup, je peux avoir tous mes jeux tout le temps avec moi. Même si, vu la taille des cartouches, c'est pas non plus compliqué.
C'est surprenant, toi qui collectionnes les trucs, non ? T'aimes pas l'objet ?
Ouais, mais justement, je suis dans une phase de ma vie où je sors de tout ça, en fait. Je change. Je continue, par exemple, à collectionner les BD, mais elles sont numériques sur mon iPad, etc. On en a déjà parlé. Donc voilà. Okay. Voilà, messieurs, merci beaucoup.
Cool.
Merci à tous.
On vous fait un gros bisou et on vous dit probablement au mois prochain.
À bientôt. On fera plus de caca, promis, la prochaine fois.
Ouais.
Ciao.
Ciao.
J'ai attendu une dizaine de secondes après parce que je suis complètement con, en fait.
J'espère que tu m'as compté dans les fans absolus des mecs qui réfléchissent pas et qui sont trop cons, quoi.
Ouais.
pas de clicouni, moi je vais faire pareil que toi, t'as raison. Faire sans dire clap en même temps que tu le fais, s'il te plaît, parce que ça va être relou en fait.
Radio Kawa. Vous aimez les émissions produites par Radio Kawa et vous aimeriez pouvoir nous donner un petit coup de pouce? Rendez-vous sur patreon.com/radiokawa et devenez mécène de nos émissions en public, de notre nouveau matériel et de bien d'autres projets visant à améliorer le Radio Kawa que vous connaissez et que vous aimez. Radio Kawa ne touche aucun revenu publicitaire, alors à vous de jouer sur patreon.com/radiokawa.